Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Dans le contexte d'une actualité difficile, souvent douloureuse, d'une crise sanitaire exceptionnelle, merci d'être si nombreux. Vous êtes 300 à participer à ce deuxième jeudi de l'ordre en visioconférence. Pour l'animer, nous avons le bonheur d'accueillir Marc Léon, chef de service d'anesthésie, réanimation polyvalente et traumatologie à l'hôpital Nord. Stanislas Rebaudet, à ma gauche, infectiologue, clinicien et épidémiologiste à l'hôpital européen. Ils vont parler des recommandations sur la prise en charge hospitalière des patients Covid en réanimation et hors réanimation. Vous pourrez ensuite poser vos questions et Simon Delecourt gérera comme il sait le faire si bien d'habitude. Ce jeudi est le premier des trois qui abordent le sujet. Le 26 novembre, Philippe Alphand viendra dans le détail nous parler des tests Covid, différences, fiabilité et avenir. Et le 10 décembre, nous parlerons de la Covid à domicile et de l'expérience de nos confrères généralistes. Avant de commencer, je dis un grand merci à Marie-Dominique Métra, notre présidente, et un salut particulier à Simon Delecourt et à un absent de marque, Guillaume Gorincourt, pour leur qualité d'organisateur et leur énergie permanente. Merci.
Donc, bonsoir à tous. Je m'appelle Stanislas Rebaudet, je suis donc effectivement infectiologue clinicien à l'hôpital européen. Je suis également épidémiologiste et chercheur dans une unité de santé publique qui s'appelle le CESTIM, qui est une unité de recherche d'Aix-Marseille Université, de l'INSERM et de l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement. Voilà, donc petite diapositive classique concernant mes liens d'intérêt, j'en ai pas. Comme l'indique le site Eurofordox ou transparencesanté.gouv. Vous pouvez passer, s'il vous plaît. Alors, ceci n'est pas un cours. Clairement, je vais simplement essayer de détailler certains points qui me paraissent particulièrement intéressants. Tous, on est plongé dans le Covid depuis maintenant le printemps. On a tous énormément acquis de connaissances à ce sujet. Sur cette diapo, je renvoie simplement à quelques sites internet de référence qui tous proposent des contenus didactiques extrêmement intéressants et souvent très bien faits. La suivante, s'il vous plaît. Alors, je vais commencer par la démarche diagnostique. Donc, ce sera un peu redondant avec ce que Philippe Alphand a prévu de faire dans quelques semaines. Je n'étais pas au courant exactement du programme, mais je passerai assez vite. Donc, la question d'actualité, qui d'ailleurs vient de faire l'objet de recommandations, concerne, dans cette période hivernale, la question de la distinction du diagnostic différentiel entre la Covid-19 et la grippe. D'une manière générale, la probabilité de l'un ou de l'autre, évidemment, dépend de l'incidence hebdomadaire de ces deux maladies. En réalité, c'est la prévalence, mais comme la durée de contagiosité de maladie de la Covid comme de la grippe est d'à peu près une semaine, il suffit de regarder les chiffres d'incidence hebdomadaire pour avoir une vague idée de la prévalence de la maladie, donc de la probabilité qu'un malade qui se présente soit effectivement atteint d'une Covid-19 ou de la grippe. Alors, vous avez des chiffres qui sont disponibles, par exemple, sur ce site Covid Tracker et qui vous donnent le taux d'incidence hebdomadaire pour la Covid-19. À l'heure actuelle, dans les Bouches-du-Rhône, il est autour de 500 cas pour 100 000 habitants par semaine, ce qui fait à peu près du 0,5%. On va dire que ça, c'est la probabilité de base. Pour la grippe saisonnière, vous avez les réseaux Sentinelles, les données de Santé publique France, qui pour l'instant ne montrent aucune activité grippale, que ce soit par surveillance syndromique. Alors on se doute bien qu'à l'heure actuelle, il est bien difficile, quand on voit quelqu'un arriver au cabinet, de savoir si c'est de la grippe ou pas, mais il y a quand même de la surveillance virologique qui est faite de manière systématique. Et pour l'instant, en métropole, aucune activité grippale. C'est différent sur l'île de La Réunion, qui, comme vous le savez, est dans l'hémisphère sud, où la saison grippale est inversée. Et justement, dans l'hémisphère sud, il y a des chercheurs, notamment des CDC américains, qui ont regardé ce qui s'était passé cette année au Chili, en Australie et en Afrique du Sud. Et chose assez encourageante pour nous, ils se sont rendus compte que malgré des milliers et des milliers de PCR diagnostiques, cette année, il n'y avait quasiment pas eu de grippe dans ces trois pays de l'hémisphère sud. Probablement, d'abord du fait de la réduction des voyages intercontinentaux et donc un frein à la propagation de ce type de pandémie. Et deuxièmement, probablement à cause des mesures barrières, ce qui suggère qu'il est probablement bien plus facile de lutter contre les épidémies grippales que de lutter contre la Covid-19. Et ce sera certainement une leçon à tirer dans les années qui viennent si cette année on observe effectivement la même chose. Alors il faudra quand même surveiller l'incidence de la grippe et donc regarder régulièrement les données disponibles. La probabilité de l'une ou de l'autre dépend en plus de la suspicion épidémioclinique, c'est-à-dire le patient a-t-il eu un contact à risque, a-t-il des symptômes évocateurs de l'une de ces deux maladies. Alors globalement, on l'a vu tout à l'heure, un patient asymptomatique qui se présente au cabinet ou pour lequel on se pose la question d'une Covid-19, ben, finalement, la probabilité, elle dépend à la louche du taux d'incidence hebdomadaire pour le Covid. Donc à l'heure actuelle, on a dit c'est à peu près 0,5%. Pour les contacts à risque intrafamiliaux, ça a été estimé par des études à partir de la sérologie et de questionnaires, et c'est probablement de l'ordre de 10 à 15%. Donc on voit que c'est quand même un tout autre ordre de grandeur. Et concernant les cas symptomatiques, alors c'est difficile à estimer, il y a des publications qui ont essayé de tester des scores cliniques en fonction des symptômes, de façon à évaluer un peu la probabilité qu'un patient ait effectivement une Covid-19. Alors il y a ce papier là qui avait été publié il y a quelques mois dans Nature Medicine. Je me suis amusé à l'appliquer à mon propre cas, puisque j'ai eu le bonheur d'expérimenter la Covid l'été dernier. Et d'après mes symptômes, j'avais effectivement une probabilité de 51% d'avoir une Covid-19. Alors il est hors de question de faire ça systématiquement devant chaque patient, mais par ça, je voulais simplement vous illustrer la probabilité qu'un patient ait une Covid-19 en pleine vague épidémique. Donc en pratique, chez l'adulte, évidemment, à chaque fois qu'on se pose la question, on fait une RT-PCR SARS-CoV-2 sur écouvillon nasopharyngé. Et puis, ce que nous recommande le Conseil de la Santé publique, c'est d'associer une recherche de grippe si on est dans une collectivité à risque, donc par exemple un EHPAD, si le patient est hospitalisé en réanimation. Et puis, chez les personnes à risque de forme grave, on verra un petit peu ces critères ensemble, en cas de période de circulation virale, grippale, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Chez le nourrisson, plus que la grippe, la question du diagnostic différentiel avec une bronchiolite à VRS ou une gastro-entérite à rotavirus, qui sont des épidémies hivernales classiques, va évidemment se poser. Et ce que recommande le Conseil de la Santé publique, c'est de faire une recherche de SARS-CoV-2 en cas de présentation sévère ou atypique, ou en cas de comptage avéré, notamment intrafamilial. Maintenant, se pose la question de l'indication du scanner thoracique. Alors en ville, clairement, ce n'est pas recommandé, sauf éventuellement des situations très très particulières. D'une manière générale, c'est donc exclusivement réservé aux patients oxygénodépendants ou alors aux patients hospitalisés. Les objectifs, ils sont diagnostiques, puisque ça permet de rattraper des diagnostics en cas de RT-PCR faussement négative, puisque je vous rappelle que la sensibilité de la RT-PCR, on en redira un petit mot, elle est de 70 à 80% seulement, avec donc du coup ces atteintes classiques envers des polis, souvent périphériques. Le scanner a également un intérêt qui est pronostique, puisque la sévérité de la maladie dépend de l'étendue des lésions, et les radiologues sont extrêmement maintenant habitués à quantifier le pourcentage de parenchyme atteint. Et puis, il a un intérêt majeur quand on se pose la question d'une diagnostic différentiel ou d'une association d'une embolie pulmonaire avec réalisation d'un enjeu scanner, quand on se pose la question d'une surinfection pulmonaire. Et donc, dans ces cas-là, on est à la recherche de condensation avec bronchogramme aérique. Voilà, ça nous aide régulièrement. Question brûlante maintenant des alternatives à la RT-PCR nasopharyngée, hein, qui pose évidemment des problèmes. Pour avoir eu moi-même 6 écouvillons dans les naseaux, effectivement, ce serait bien si on pouvait imaginer autre chose. Et puis, il y a la question des délais de rendu des PCR, alors qu'ils se sont nettement améliorés ces derniers mois. Mais on se souvient tous, en août, début septembre, d'une période où les laboratoires étaient complètement saturés et où parfois il fallait attendre des jours et des jours les résultats des PCR. Donc les TROD antigéniques maintenant occupent beaucoup beaucoup les débats. Un TROD antigénique, c'est quoi? C'est une alternative à la RT-PCR qui ne détecte pas l'ARN du virus, mais simplement des antigènes. Ça se fait sur une petite cassette que je vous ai mis. Il en existe également hein, pour des sérologies, par exemple pour la grippe. On l'utilise pour le paludisme dans les pays tropicaux ou même dans nos laboratoires ici en métropole quand on se pose la question d'un palud importé. Par contre, la limite de ces TROD antigéniques, c'est qu'ils se font sur écouvillons nasopharyngés. Donc finalement, ça ne permet pas encore un allègement de la stratégie diagnostique de ce fait-là. Alors la sensibilité est de l'ordre de 32 à 62% en fonction des kits commerciaux. Donc ça, ce n'est pas les données constructeurs qui sont, comme toujours, beaucoup plus vendantes et vendables que celles-ci. Ça, c'est les données d'une évaluation indépendante qui a été faite par le CHU Henri Mondor à Créteil. Et la spécificité, elle est de 93 à 100%. Alors nous, ici, en région PACA, on dispose du test rapide d'orientation diagnostique, le TROD Abbott. C'est celui que l'ARS met à disposition. Il a l'avantage d'avoir une spécificité de 100%, disons presque 100%, parce que 100%, il faut toujours se méfier. Et il a une sensibilité qui est, supérieure à 50%. Et voire même supérieur à 60% quand on le fait pendant les premiers jours de la maladie. Donc la question maintenant, c'est quelle est la valeur prédictive de ce type de test, puisque comme vous le savez, ça dépend de la probabilité pré-test d'avoir une Covid. Si je repars de ma situation personnelle, avec une probabilité de 50% d'avoir le Covid, si j'avais fait un TROD à ce moment-là, vous voyez en rouge sur la droite de l'histogramme, j'aurais été sûr à 100% d'être effectivement positif au Covid. En revanche, si le test avait été négatif, j'avais quand même une probabilité d'avoir le Covid de 31%. Message, un TROD négatif n'élimine pas le Covid. Alors du coup, les indications retenues par l'HAS, elles sont assez limitées à l'heure actuelle. Il recommande d'utiliser les TROD à visée diagnostique chez les patients symptomatiques quand on a des difficultés à obtenir une RT-PCR rapidement, c'est-à-dire dans les 48 heures, et puis si les symptômes n'évoluent que depuis moins de 4 jours, puisque la sensibilité des tests rapides antigéniques descend beaucoup au-delà de 4 jours. Et puis il les propose également dans le cadre des dépistages de masse. Attention aux personnes à risque de formes graves, c'est-à-dire les plus de 65 ans ou les personnes qui ont des comorbidités. Il faut absolument recontrôler les TROD négatifs par RT-PCR. Alors la sérologie maintenant, à faire au laboratoire et non pas par TROD, parce que ça existe également sur des prélèvements de sang réalisés au niveau du bout du doigt, là, en capillaire. Ces TROD sérologiques-là sont de qualité insuffisante à mon avis. Donc les vrais TROD par ELISA réalisés au laboratoire peuvent être très très intéressants dans des situations de rattrapage diagnostique. Je vous montrerai un petit truc tout à l'heure. Alors les prélèvements salivaires, ça c'est ce que tout le monde attend avec impatience. Et c'est peut-être justement la stratégie d'avenir. Il y avait un papier très intéressant dans le New England Journal of Medicine il y a quelques semaines, qui était une réflexion sur les stratégies diagnostiques. Est-ce qu'il vaut mieux des RT-PCR super sensibles mais difficiles d'accès, qu'on ne fait que quand on a vraiment une suspicion? Ou est-ce qu'il vaudrait mieux en réalité des tests qu'on pourrait faire peut-être chaque semaine, qui seraient pas chers, qui seraient faciles à faire, hop, il suffirait de cracher dans un pot? Et finalement, ce ne serait pas grave si ces tests avaient une sensibilité moindre, parce que, comme vous le voyez sur ce graphique, avec la charge virale en bleu, ces tests qu'on pourrait faire chaque semaine, c'est les petits points blancs que vous voyez répétés de manière régulière sur le trait pointillé du dessus. Finalement, quand les patients sont à la phase aiguë de la maladie, ils ont des charges virales souvent importantes et donc des tests salivaires pourraient théoriquement permettre de poser le diagnostic en temps et en heure. Alors finalement, une mauvaise stratégie basée sur des RT-PCR difficiles d'accès font que souvent, trop souvent, on pose finalement le diagnostic un peu avec du retard au moment où en réalité les patients ont toujours des PCR positives, mais où en réalité ils ne sont plus contagieux. Alors, il y a plusieurs études en cours sur ces prélèvements salivaires. D'après l'HAS, il pourrait être intéressant plutôt pendant la première semaine de l'évolution de la maladie et uniquement en cas de contre-indication un prélèvement nasopharyngé. Et certainement pas pour les asymptomatiques parce que pour l'instant, les sensibilités sont bien trop faibles. Et puis, il y a l'étude de Montpellier dont vous avez peut-être entendu parler qui repose non pas sur des RT-PCR classiques mais sur une autre méthode d'amplification de l'ARN qui est la lampe. Ce n'est pas des cycles avec des variations de température, c'est des amplifications à température constante. Et ils nous annoncent des sensibilités, des spécificités qui sont vraiment spectaculaires. Il faut vraiment, à mon avis, attendre de voir une confirmation de ces résultats. Donc là, je ne vais pas trop élaborer là-dessus, mais voilà un algorithme diagnostique qui synthétise un petit peu tout ce qu'on a dit, et je pense que Philippe Alphond vous en redira un mot. Alors maintenant, un petit mot sur la prise en charge à domicile. Et là, pareil, je ne m'appesantirai pas puisqu'il va y avoir un topo spécifique dans quelques semaines. Qui hospitaliser ? Ben, évidemment, les patients qui ont des signes de gravité. Et là, je rappelle l'importance de deux constantes essentielles qui sont d'une part la fréquence respiratoire qui est insuffisamment mesurée, y compris à l'hôpital, et la saturation par un oxymètre de pouls. On ne peut pas évaluer un patient Covid sans ces deux paramètres, c'est extrêmement clair. Autre patient à hospitaliser, c'est ceux qui ont des facteurs de risque d'aggravation qui sont listés ici et que tout le monde connaît maintenant. Nous, aux urgences de l'hôpital européen, quand on a des patients avec Covid qui arrivent et qui ont 75 ans et une comorbidité, même s'ils sont bien, on les garde toujours, sauf refus du patient évidemment, mais on les garde toujours quelques jours pour s'assurer que ça évolue correctement. Et puis, on garde également en hospitalisation les patients qui vivent dans un environnement, on va dire, psychosocial qui est incompatible avec un maintien à domicile parce qu'ils sont isolés, parce que les conditions de vie ne le permettent pas, parce que les conditions logistiques du maintien à domicile ne le permettent pas. Il faut bien pouvoir manger, il faut pouvoir avoir quelqu'un qui vous porte des courses, il faut avoir quelqu'un qui puisse s'occuper un peu de vous. Et quand ce n'est pas possible, il est légitime de garder les gens à domicile. Surtout que les places en hébergement Covid à Marseille sont extrêmement difficiles à obtenir. Et j'imagine que c'est un petit peu la même chose dans le reste du département. Et puis, la question se pose également pour les patients qui, à domicile, vivent avec des personnes fragiles qu'il ne faudrait pas qu'ils contaminent. Alors, quel traitement ? Donc, évidemment, en systématique du paracétamol. À discuter les parinothérapies par heparine de bas poids moléculaire. En cas de facteur de risque thromboembolique, même à domicile, il suffit de faire passer une infirmière. La posologie classique du Lovenox, c'est 0,4 ml une fois par jour, mais quand les patients cumule les facteurs de risque, il ne faut pas hésiter à monter, voire même à 0,6 toutes les 12 heures quand ils ont des facteurs de risque importants et qu'ils pèsent plus de 120 kg. Antibiothérapie uniquement en cas de surinfection pulmonaire diagnostiquée. Aucun intérêt à prescrire systématiquement de l'azithromycine comme c'est souvent vu. Puisque les surinfections, en réalité, sont très très rares. Alors, des traitements en cours d'évaluation maintenant, le zinc. Alors, on voit des confrères qui prescrivent du zinc à tous les patients. Ce n'est pas complètement aberrant. Il y a quelques, même si ce n'est pas validé, je le dis d'emblée, il y a quelques arguments indirects, le zinc ayant un rôle établi dans l'immunité. Et certaines études observationnelles suggèrent que les patients qui ont des concentrations en zinc trop basses, ferait des formes plus sévères. Il y a 38 études qui sont enregistrées sur clinicaltrials.gov. Il y a simplement deux études rétrospectives observationnelles qui ont été publiées. Elles sont favorables, mais elles ont un très très faible niveau de preuve. Et pour l'instant, clairement, ça ne suffit pas recommander le zinc. Ceci dit, on pourrait se dire ça ne mange pas de pain. Le zinc, pour le coup, contrairement à d'autres médicaments, il n'y a pas d'effet secondaire connu. Et la posologie, c'est 220 mg deux fois par jour. La vitamine C, là aussi, il y a plein d'études qui sont en tout cas enregistrées. Je ne sais pas si elles sont toutes en cours de recrutement. Pour l'instant, il n'y a absolument rien dans la littérature. L'aspirine, on voit également des confrères qui prescrivent ça systématiquement. Alors là, clairement, à mon avis, il ne faut pas le faire. La balance bénéfice-risque est défavorable parce qu'il y a un risque hémorragique évident. Il y a les risques de syndrome de Reye qui sont surtout observés chez les enfants, d'accord ? Mais quand même, et il n'y a aucune publication disponible à ce jour. Alors un petit mot, on ne peut pas ne pas en parler, de l'hydroxychloroquine plus ou moins associée à l'azithromycine. Comme vous le savez, il y a un effet antiviral in vitro sur culture virale, mais comme finalement énormément de molécules, que ce soit les statines, l'ivermectine ou énormément d'autres molécules qui habituellement n'ont aucune utilisation en infectiologie. Pas d'effet observé sur modèle animal. Pharmacocinétique, en réalité, peu favorable à une utilisation dans la COVID-19 du fait notamment de la durée nécessaire pour atteindre des concentrations efficaces. Plusieurs centaines d'études enregistrées sur Clinical Trials, puis plus toutes les autres qui ont été conduites sans enregistrement préalable. C'est probablement le médicament le plus étudié en infectiologie de l'histoire de l'infectiologie dans une indication précise. Il y a eu énormément d'études observationnelles, dont beaucoup sont à très très fort risque de biais, et je ne parle pas uniquement des études marseillaises. Il y a ceci dit eu plusieurs très très belles études observationnelles, je pense notamment à une étude new-yorkaise qui était très très bien faite, avec des scores de propension faits à la perfection en utilisant les différentes méthodologies de score propension adaptées. On a eu beau la scruter sous tous les angles, rien à redire. Et puis, comme vous le savez, il y a un certain nombre d'essais randomisés, dont certains versus placebo, qui tombent les uns après les autres. À l'hôpital européen, on a participé à l'un d'entre eux, dont le promoteur était le CHU d'Angers, qui s'appelle e-Covid. Il a été interrompu un peu prématurément à la fin de la première vague, mais les résultats qui viennent de sortir en préprint montrent, comme le reste, qu'il n'y avait aucun effet bénéfique de l'hydroxychloroquine. Donc clairement, pas d'effet sur la clairance virale, pas d'effet sur la mortalité, comme le montrent tous ces essais cliniques, et comme le montrent toutes ces méta-analyses. Pas d'effet sur la progression de la maladie et en revanche des effets secondaires qui certes sont exceptionnellement sévères, mais quand même. Alors à domicile, quel suivi? Là, je ne vais pas épiloguer. Surveillance par infirmière libérale, téléconsultation ou mieux encore consultation pour notamment pouvoir surveiller la saturation. Pas de bilan biologique systématique, pas de scanner, on l'a dit. L'isolement, minimum 7 jours. Le J0 étant considéré comme le début des symptômes ou le jour du test si le patient est asymptomatique. Il ne faut pas hésiter à prolonger l'isolement pour les patients qui sont immunodéprimés, pour les patients pour lesquels la guérison clinique met du temps, notamment qui restent fébriles un certain temps. Et puis, il faut évidemment vérifier que les conditions soient réunies. Les conditions d'isolement, je ne vais pas détailler non plus, vous les connaissez, mais il faut insister sur le masque qui est efficace contre les aérosols, même le masque chirurgical. Insister sur l'aération des pièces, 10 minutes chaque heure dans la chambre dans laquelle on isole le patient, c'est capital. Le contact tracing qui est fait, comme vous le savez, par l'assurance maladie, avec les limites qu'on connaît tous, sans lesquelles il n'y aurait pas de deuxième vague. Le problème, c'est évidemment celui d'un contact tracing qui se fait par téléphone exclusivement, parfois avec retard, et qui laisse de côté tous les patients qui sont faussement négatifs en PCR. Alors là, je fais une micro-page de publicité pour un projet qu'on est en train de lancer à l'hôpital européen qui s'appelle Coresan, qui est un projet financé par l'ARS qui couvre les premiers, deuxième et troisième arrondissements et qui est un projet d'accompagnement à l'isolement pour les patients qui en auraient besoin. En gros, ça consiste à dépister très rapidement ces patients, dépister leurs contacts proches très rapidement et les accompagner dans la mise en œuvre de leur quarantaine, ou disons de leur septaine, à la maison, en proposant des assistances quand c'est nécessaire avec tout un réseau d'associations. Donc ces patients nous seront adressés par les médecins généralistes du quartier et voilà, on va démarrer demain ou lundi en fonction des tout derniers réglages et je pense qu'on vous en dira plus très bientôt. Oxygénothérapie à la maison, c'est une question qui vient de faire l'objet de recommandations en période de crise sanitaire. Ça peut effectivement se poser. Ça ne doit se faire que dans le cadre de parcours coordonnés pluriprofessionnels et on est à l'hôpital européen en train de discuter de ça, notamment avec la CPTS des 2e et 3e arrondissements. Les indications, elles sont quoi qu'il en soit très cadrées, soit des patients qui sortent d'hospitalisation ou qui ont encore besoin d'un petit peu d'oxygène, soit d'emblée pour des patients qui ont des besoins limités en oxygène, mais à condition vraiment que le suivi soit extrêmement, extrêmement rapproché. Alors, très rapidement maintenant, à l'hôpital, pour prendre en charge des Covid, il faut un circuit dédié pour les patients Covid-19, avec évidemment des ascenseurs, des zones dédiées. Nous, à l'hôpital européen, et je sais que ça ne se fait pas dans tous les centres, on a décidé de mettre dans nos unités Covid tous les patients Covid, y compris ceux qui sont dépistés Covid dans les unités non Covid où ils étaient hospitalisés pour autre chose. Donc on a décidé de faire comme ça. Quand il y a un patient qui se Covidise, disons-le comme ça, quelque part, il est transféré en unité Covid pour essayer de limiter autant que possible les infections nosocomiales. Il faut des locaux spécifiques, idéalement en pression négative. Il faut des taux de renouvellement d'air qui soient suffisants, hein, et ce n'est pas rien. On parle de 6 à 9 fois par heure pour chaque pièce de façon à limiter les aérosols. Donc il faut des ventilations qui soient de qualité, et ce qui n'est pas toujours facile à obtenir dans les hôpitaux de construction ancienne. Donc dans ces cas-là, il faut des protocoles pour pouvoir ouvrir les fenêtres des chambres de manière régulière. Un petit mot sur les visites des familles. C'est extrêmement difficile pour les patients d'être enfermés dans des chambres sans pouvoir en sortir. Et donc c'est vrai que nous, on a tendance à autoriser des visites de temps en temps pour des patients qui craquent sur dérogation médicale. Le personnel dans les unités Covid, c'est du personnel non à risque de forme grave. On fournit des FFP2 pour tous les personnels, qu'ils soient infirmiers, médecins, ASH, à partir du moment où ils travaillent dans des unités Covid, et même s'ils ne font pas de manœuvres à risque d'aérosol. Le dépistage et des personnels est assez vaste et pour l'instant, on a réussi à tenir sur l'éviction systématique de tous les professionnels Covid positifs. C'est vrai qu'en pleine période de crise, dans certains hôpitaux, que ce soit pendant la première ou la deuxième vague, ils avaient été obligés de maintenir en poste des patients des personnels positifs, mais asymptomatiques. Pour l'instant, on a réussi à ne pas le faire. Je pense qu'il faut essayer d'éviter de ne pas le faire, même si certains personnels poussent assez fort pour rester en poste. Pour faire tourner ces unités qui empiètent très très largement sur l'activité classique de nos hôpitaux, on est obligé de faire appel à des spécialistes non habituels en infectiologie ou en pneumologie. Donc nous, on a par exemple des chirurgiens qui tournent en ce moment là en unité Covid. Alors on ne s'improvise pas infectiologue évidemment. Mais donc ils sont toujours en binôme avec des infectiologues, des pneumologues, des internistes. On a fait des webinaires de formation. On a des staffs quotidiens qui permettent de discuter de tous les patients qui le nécessitent. Voilà, c'est une organisation qui n'est pas facile, mais qui permet malgré tout, je trouve, de fonctionner correctement. Alors, je finirai par ça, qui transférer en réanimation. Je pense qu'on vous en donnera davantage d'informations tout à l'heure, mais nous, on utilise le score de NEWS2, qui est un score un peu synthétique, qui synthétise donc la fréquence respiratoire, la saturation en oxygène, le recours à l'oxygénothérapie, la tension, enfin voilà, des constantes un peu classiques. Et quand on a un score de NEWS2 à 7 ou plus, on appelle les réas, au moins pour qu'ils viennent évaluer les patients. En tout cas, on appelle les réa pour les patients pour lesquels on a décidé à l'avance d'appeler les réa s'ils se dégradent. Ça, c'est un truc qu'on a mis en place très tôt lors de la première vague. Tous les patients qui sont hospitalisés ont un statut réanimatoire qui est écrit dans le dossier, affiché en gros sur le dossier patient informatisé, les stades 1, et tous ces statuts sont décidés de manière collégiale à l'occasion de ces staffs quotidiens et en impliquant le personnel soignant. Stade 1, c'est transfert en réanimation s'il y a besoin. Stade 2, c'est transfert en réanimation, mais avec les discussions d'engagement thérapeutique que les réanimateurs ont l'habitude de faire. Stade 3, c'est des patients qui sont beaucoup trop âgés ou qui ont des comorbidités telles que un transfert en réanimation ne serait pas pertinent. Et donc, la prise en charge de la dégradation se fait en chambre. On fait tout ce qu'on peut en chambre, y compris de la VNI ou de l'optiflo si vraiment c'est nécessaire, mais ces patients-là ne descendent pas en réa. Et stade 4, c'est les soins de confort pour la fin. Et donc, on demande des avis réanimatoires précoces, et je pense que c'est important. Et je finirai avec ça. Donc, quel traitement? Je ne vais pas épiloguer, puisque Marc Léon va vous en dire davantage. Mais en systématique, évidemment, paracétamol et HBPM. Fréquemment, donc, de l'oxygène et nasal ou au masque, puisqu'on est, on parle là de patients qui sont hospitalisés. Et à chaque fois qu'un patient est sous oxygène, il est mis sous corticoïdes, sauf s'il a plus de 70 ans. Là, pour les plus de 70 ans, on le discute. Parfois, on prescrit des antibiotiques en cas de surinfection pulmonaire, mais ça n'est pas du tout systématique. Parfois, comme je le disais, on a recours à l'optiflo ou à la VNI en étage, mais uniquement pour des patients qui ne descendront pas en réanimation, histoire de leur donner une dernière chance. On recourt au midazolam effectivement pour les accompagnements de confort en stade 4 ou parfois pour faire en sorte que les patients qui soient sous VNI soient un petit peu plus calmes, un peu plus adaptés à la ventilation. De manière exceptionnelle, ça nous est arrivé de demander des ATU pour des plasmas de convalescents. Là, on a mis un patient il n'y a pas longtemps sous plasma de convalescents. Sans pour autant qu'il ait négatif sa PCR et ne sont pas indiqués à l'heure actuelle évidemment l'hydroxychloroquine, on en a parlé, l'opinavir, ritonavir qui n'a pas montré son efficacité, le remdesivir, vous savez que le service médical rendu a été jugé comme faible et donc on ne le prescrit pas, le tocilizumab qui est un anti-interleukine 6 qui pour l'instant n'a pas montré son efficacité, hein, les études sont plutôt en défaveur. L'anakinra, qui est un antirécepteur de l'interleukine 1, qui n'a pas montré son efficacité. Il y a même un essai là, qui vient d'être interrompu en France, qui s'appelle Anaconda, dans lequel il y a un signal négatif. Et dernier point, qu'enlever l'isolement? Alors ça, c'est une question qui nous taraude tous à l'hôpital, puisqu'on a besoin de libérer des lits. Et on a des patients qui peuvent parfois garder des PCR positifs très longtemps. Et souvent, on ne sait pas quoi en faire. On se doute bien qu'ils sont plus contagieux parce qu'ils ne sont plus symptomatiques, mais on ne sait pas quoi en faire. Et donc, voilà comment on a organisé les choses à l'hôpital européen. Les patients qui ne sont plus fébriles depuis au moins 48 heures, qui se sont très, très nettement améliorés sur le plan respiratoire depuis au moins 48 heures, et qui sont à plus de 24 jours d'évolution de leurs symptômes, on les désisole. Quand ils sont à moins de 10 jours, on les désisole jamais. Et quand on est entre J10 et J24, on fait des PCR, et quand on en a deux qui sont négatives, on désisole. La question se pose pour les patients qui ont des PCR avec des charges virales très faibles, puisqu'on sait que très souvent, en réalité, ces patients n'ont pas de virus cultivable dans leurs voies aériennes. Pour l'instant, d'après ce que j'ai lu, d'après les discussions qu'on a eues avec les virologues, il n'y a pas suffisamment de données solides pour pouvoir déterminer un cut-off archi clair, permettant de dire, bon, positif, mais au-delà de 35 CT, par exemple, 35 cycles de PCR, on pourrait désisoler. Ce sera peut-être l'avenir, mais pour l'instant, malheureusement, à mon avis, on n'a pas encore ces informations. Voilà, je terminerai par ça. Merci beaucoup.
Donc, bonjour à tous, merci au Conseil de l'Ordre le 13 de me recevoir. C'est un plaisir, un honneur. J'aime bien l'idée de parler aux médecins de la région. Je vais vous parler des traitements médicamenteux en réanimation. Je vais faire un petit survol de ce qu'on fait en réanimation pour ceux qui sont au moins au courant. Et je vais commencer par me présenter. Je suis Marc Léon, je travaille à l'hôpital Nord dans le service d'anesthésie et réanimation que j'ai le plaisir de diriger. Et je fais mes recherches à l'IHU, dont on parle régulièrement, donc vous devez savoir ce que c'est à peu près. Mes conflits d'intérêts avec de l'industrie, avec des industriels comme consultants ou pour faire des présentations. Mon conflit d'intérêt principal, c'est quand même Aix-Marseille Université, qui est mon principal employeur, et la PHM, et l'IHU, où je fais mes recherches. J'ai un conflit d'intérêt avec l'ASFAR, je suis secrétaire général adjoint, qui est la Société française d'anesthésie et réanimation, avec la Société européenne de réanimation, où je suis en charge d'une section, et je participe pour l'ASFAR au Conseil de la santé publique, qui est régulièrement cité. Un petit rappel ou enfin des petites photos de souvenirs pour ceux qui ne sont pas allés en réanimation depuis longtemps. Une réanimation, c'est une espèce de sous-marin, de vase clos, dans lequel on met les patients les plus graves de l'hôpital, c'est-à-dire ceux qui ont un risque de détresse vitale, mais avec un projet de vie derrière, une qualité de vie qui doit être cohérente. Une réanimation, c'est un hôtel un peu de luxe, hein, puisqu'il y a deux infirmières qui vont s'occuper de 5 patients, il y a une aide-soignante pour 4 patients. On est en général bien doté en médecins, même si on en demande toujours plus. Et on est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui fait que quand on vous envoie un patient et qu'on vous dit qu'il faut tout faire, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et c'est notre passion. C'est un séjour qui est quand même un peu coûteux pour la société, parce qu'on n'a jamais parlé des coûts depuis le début, mais c'est un séjour à environ 3 500 € par jour qui est payé aux institutions. Alors on reçoit de temps en temps des traumatisés ou des patients graves, et donc vous avez tout ce mouvement autour qui est souvent vu et caricatural, mais il y a aussi beaucoup de temps de visite, de staff, de réunion où on décide des traitements. La moyenne d'âge, on avait fait un papier l'année dernière avec Mathieu Legrand. La moyenne d'âge des patients en réanimation est de 66 ans. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait jeune. La moyenne d'âge des patients Covid qu'on a depuis le début de la crise est à 62 ans. Hein, donc on a des patients plus jeunes en Covid que la moyenne d'âge nationale. Hein, ce sont des données nationales. Hein. Et la mortalité, quand vous prenez toutes les réanimations de France avec 144 000 patients, la mortalité en réanimation sur un an est de 20%. Si vous prenez que les patients qui sont en choc septique, c'est-à-dire ceux qui font une infection grave, comme on va développer après, la mortalité est d'environ 50%. La mortalité est très, très relative à l'âge. Alors, je sais que les gens adorent parler d'âge physiologique, mais là, c'est l'âge pur. Et quand on est au-delà de 80 ans, malheureusement, les chances de survie ou à un an après la réanimation sont relativement faibles. Pour ceux qui nient la réalité de cette maladie qui s'appelle la Covid-19 et qui nous disent que ça n'existe pas, j'aime bien cette carte qui a été publiée dans un grand journal ce matin. Hein. Vous voyez ce qui se passait en termes d'incidence de population en réanimation le 17 septembre. Alors, basiquement, plus c'est foncé, plus il y a de patients. Et ce qui se passe aujourd'hui, enfin, il y a quelques jours, puisque ça a encore augmenté aujourd'hui, dans les réanimations en France. Donc, c'est bien de dire que les patients n'existent pas, mais en fait, ils sont là, qu'on le veuille ou non. Nous, sur l'hôpital Nord, on a 39 places de réanimation, toutes réanimations confondues en temps normal. Moi, je travaille là-bas depuis 1993. On n'a jamais ouvert un lit supplémentaire, quelle que soit la situation. Et aujourd'hui, on est à 68 places de réanimation, dont à peu près 40% de ce qu'on appelle les réanimations éphémères, qu'on a placées à peu près dans toutes les unités où on pouvait placer des patients et les surveiller, en faisant revenir du personnel, en arrêtant les écoles pour trouver des infirmiers et des aides-soignantes. Et on compte passer dans les prochains jours à 76 places. Donc c'est vraiment, on vit un moment historique en termes de soins critiques. Alors, on va faire une approche un peu basée sur la physiopathologie de cette maladie qui s'exprime le plus souvent par une pneumonie, qui est une maladie virale, qui va créer une inflammation discutable, hein, on va le voir, et qui va créer un autre phénomène qui est bien connu des gens qui font du sepsis et de l'infection grave, c'est une coagulopathie avec des thromboses. Alors on va commencer par la pneumonie qui va donner ce qu'on appelle une hypoxémie joyeuse, c'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui ont plus d'oxygène, qui saturent à 80%, 75, 80%, et qui sont en pleine forme, et qui vous disent que tout va bien jusqu'au moment où ils vont faire un arrêt cardiaque, hein, donc ça ne va pas si bien que ça, mais c'est l'hypoxémie joyeuse, et puis j'en profite, puisque là il y a des infirmiers, des aides-soignants de la réanimation qui sont en photo, pour les remercier, parce qu'on a eu un personnel juste extraordinaire depuis le début. Alors pour lutter contre l'hypoxémie, actuellement on a pas mal de moyens. Pendant très longtemps ça a été l'oxygénothérapie conventionnelle avec un masque facial que vous avez dû tous connaître ou les petites canules nasales. Et puis depuis quelques années on a quelques options, pas énormément. On a ce qu'on appelle le high flow nasal cannula qui est du haut débit, c'est-à-dire qu'on a des lunettes que vous voyez là en image. Qui permettent d'envoyer jusqu'à 60 litres d'oxygène minute chez les patients, ce qui va augmenter un peu les pressions d'ailleurs et permettre d'ouvrir quelques alvéoles, mais surtout d'apporter de l'oxygène humidifié, chauffé, avec une FiO2 qu'on va régler entre donc 21% et 100%, et vraiment à haut débit. Et cette méthode finalement permet de retarder l'intubation. Alors il faut espérer juste retarder l'intubation et que le patient s'en sorte sans avoir besoin. Il ne faut pas non plus que ça devienne un retard d'intubation, donc un retard de prise en charge. Les autres méthodes qu'on a, c'est ce qu'on appelle communément la CPAP, hein, la Continuous Positive Airway Pressure, qui est une méthode où on va créer une PEP avec un masque, où là, il n'y a pas beaucoup d'apport d'oxygène. Et puis, ce qu'on fait de plus en plus, c'est de la ventilation non-invasive à pression positive. C'est-à-dire qu'on ne va pas intuber les patients, on leur met un masque, on les met sur le ventilateur, on leur met des modes où le ventilateur est en aide et ça permet de réouvrir le poumon et de diminuer le travail respiratoire des patients qui, en général, le tolèrent plutôt bien. Ces différents modes n'ont pas été beaucoup utilisés pendant la première vague parce que quand les patients sont arrivés, les premiers patients, on a eu une espèce de kit de prise en charge qui venait de Chine et de Lombardie, où on nous disait, quand ils sont hypoxémiques, de toute façon, il faut les intuber parce qu'ils ne vont pas s'améliorer, ce n'est pas possible, et vous perdez du temps à faire de la ventilation non-invasive. Et puis en plus, on avait une crainte qu'on a toujours, hein, qui existe, hein, c'est de créer des aérosols, hein, parce que quand vous mettez une oxygénothérapie à 70 minutes dans le nez d'un patient, ben, il y en a dans toute la chambre probablement, et donc on voulait éviter ça au début. Et finalement, au cours de la première vague, on s'est bien rendu compte que cette approche d'intubation systématique était probablement excessive. Et depuis, on utilise beaucoup ces moyens qui ont été quand même un peu mis en exergue dans la presse. Ça ne sauve pas toutes les vies, ça ne permet pas de modifier le trajet des patients de façon quand même très spectaculaire. Mais en tout cas, il y en a une partie qui peut ne pas être intubée grâce à ces systèmes de ventilation non invasive. Donc, le recours qu'on a chez à peu près 50% des patients qui vont rentrer, c'est la ventilation mécanique invasive, c'est de mettre une sonde d'intubation et puis de faire du réglage de ventilateur pour arriver à les ventiler au mieux en mettant ce qu'on appelle des pressions expiratoires positives pour essayer de recruter du poumon. Vous voyez, il y a des zones condensées derrière. On va essayer d'aller recruter ces poumons en ventilant les patients. Alors, tout ça va créer un cercle vicieux qui va abîmer les poumons, ce qu'on appelle ventilator induced lung injury. Donc c'est pour ça qu'on essaie au maximum aujourd'hui de retarder l'intubation et d'éviter de rentrer dans ce cercle vicieux. Ce qu'on fait et qui est standardisé, hein, dans les services chez les patients qui sont en détresse respiratoire, en syndrome de détresse respiratoire aiguë, c'est que souvent les condensations sont postérieures, le poumon est tassé avec la gravité sur le fond et, c'est, et les parties postérieures ne sont plus du tout aérées. Et pour récupérer cette aération, on va retourner le patient, on le retourne pendant 12 à 16 heures, on va le laisser sur le ventre respirer. Quand on dort tous, on respire de temps en temps, on se met sur le ventre, on fait des manœuvres de recrutement comme ça. Et là, on va recréer la même chose chez les patients, on va les retourner entièrement. Et d'ailleurs, maintenant, on le fait même en ventilation spontanée, on leur conseille de dormir sur le ventre. Et si vous avez ça à la maison, je vous conseille vivement de changer de position régulièrement et de dormir sur le ventre. Ça ne peut qu'améliorer votre situation. Et enfin, quand on est au bout du bout, il y a les indications d'ECMO, quand le poumon n'est plus du tout ventilable, c'est-à-dire c'est des systèmes d'oxygénation, de CEC, en fait, pour être basique, hein, de circulation extracorporelle, qui oxygène le sang du patient. Quand le cœur va bien, c'est véno-veineux, et quand le cœur va mal, on fait de l'artério-veineux. Donc ça, c'est la dernière solution qui est toujours assez, dont les indications sont pesées mûrement avec les équipes spécialisées. C'est une maladie virale, donc on se dit on va donner des antiviraux, et ça, Stanislas en a parlé tout à l'heure, mais on va déjà y revenir dessus. Je ne parlerai que du cadre de la réanimation. Hein. Donc on a eu trois choix. Le lopirito, le lopinavir, ritonavir, qui est un traitement qui est donné dans le HIV. Le remdesivir qui avait été fait pour l'Ebola au départ, par un laboratoire qui maintenant est devenu célèbre pour tout le monde. Hein. Et puis l'hydroxychloroquine qui dans la région est célèbre, mais qui a été utilisé dans le monde entier. Alors on va commencer par le lopirito, hein, qui était vraiment proposé comme première option pour les premiers patients qu'on a eus, en sachant qu'on voyait mal le mécanisme d'action, hein, c'est un antiviral, in vitro ça marche pas mal, et vous voyez un papier de la première vague, hein, qui montre que finalement, et c'est l'étude Recovery, et on aura souvent recours à cette étude, qui est une large étude réalisée au Royaume-Uni, hein, qui est probablement la plus pertinente de toutes les études qui ont été faites jusqu'à présent, la mortalité, finalement, qu'on donne du lopirito ou un placebo n'est pas modifiée. Donc, le lopirito est passé aux oubliettes. Et vous voyez, là, c'est les analyses de sous-groupe. Quel que soit le sous-groupe, et ce sont des études quand même assez larges, hein, où il y a à peu près un millier de patients dans le groupe traité, il n'y a aucun effet, il n'y a aucun effet bénéfique, en sachant que c'est un médicament quand même lourd à manier, avec des effets secondaires, donc on ne le donne absolument plus. Le deuxième médicament est celui qui a été probablement au centre du débat en regard de l'hydroxychloroquine, hein, ça a été le miroir avec d'un côté un médicament pas cher, accessible à tous, et de l'autre côté un médicament très supporté par l'industrie, c'est le remdesivir. Alors j'ai un conflit d'intérêt avec Gilead. Hein. Une étude publiée dans le New England, d'abord les études préliminaires, puis une étude de confirmation, qui montre pas d'effet sur la survie. L'étude était basée sur des scores cliniques qui sont un peu améliorés chez les patients qui prennent du remdesivir, avec finalement une diminution de la durée des symptômes de 4 jours d'un groupe par rapport à l'autre. Et ça marche surtout chez les patients qui reçoivent de l'oxygène, pas du tout chez les patients qui n'ont pas d'oxygène, surtout chez les patients qui reçoivent de l'oxygène avant qu'il ne soit trop grave. Là aussi, on arrive à trouver quelques sous-groupes où ça marche. C'est une étude qui était mondiale, mais qui était beaucoup basée sur les États-Unis. Donc on a les données surtout nord-américaines. Et vous voyez, ça marche d'ailleurs dans les régions géographiques. Ça marche en Amérique du Nord, on comprend mal pourquoi ça marche moins en Europe. Et puis, une étude publiée dans le Lancet, une étude chinoise qui est plus indépendante de l'industrie que la précédente, probablement, hein, mais qui, elle, ne conclut pas sur le remdesivir et qui ne montre pas de bénéfices. Donc, des données qui sont assez contrastées, pas de données très très fortes, un score clinique de 4 jours, est-ce que c'est pertinent pour vous? Je ne sais pas. 4 jours en moins, et puis c'est des résultats qui sont assez dissemblables d'une publication à l'autre. L'hydroxychloroquine, donc c'est un médicament qui a été largement discuté par tout le monde. Quand on fait de la médecine et quand on fait de la réanimation, je vous ai dit, il y a 50% de mortalité. dans le choc septique, et on traite chez nous à peu près 80-100 chocs septiques par an. On est obligé d'avoir une méthode de travail. On est obligé de se fonder sur des données et sur une approche rationnelle. On ne peut pas dire peut-être ça fait du bien, je vais le donner, parce qu'on donnerait des centaines de médicaments à ces patients et ils vont tous mourir. Donc si, en faisant du compréhensionnel, en disant puisqu'ils vont mourir, je peux essayer ça, à la fin on donnerait des centaines de patients. Donc on ne peut pas travailler comme ça, et notre seul travail c'est d'analyser la littérature, de regarder ce qui a été fait ailleurs et puis de tirer des conclusions et de tirer des recommandations. L'hydroxychloroquine, là, c'est une méta-analyse de bonne qualité, dont la méthodologie est vraiment éprouvée, qui trouve qu'avec ou sans azithromycine, l'effet n'est pas significatif. Ça a été donné en prophylaxie, ça a été donné en pré-exposition, ça a été donné en post-exposition, ça a été donné aux patients qui reçoivent de l'oxygène, l'effet dans tout ce qui est randomisé est négatif. Alors je veux bien que ça marche peut-être, mais pour marcher, ça ferait mieux que le placebo. Et là, il y a quand même beaucoup d'études qui sont toutes négatives, et encore une qui est sortie cette semaine, randomisée, chez des patients hospitalisés, et là encore, le résultat est négatif. Alors, je vous ai dit au début, je suis issu de l'IHU. Je n'ai rien du tout contre l'IHU, puisque je travaille tout le temps là-bas. Je suis un élève de Diraout, et Diraout m'a appris qu'il fallait toujours douter, qu'il fallait toujours remettre en cause la parole des puissants. Et donc, j'applique ces méthodes-là. Et moi, je ne suis pas certain que ça marche. Peut-être que ça marche, mais ma spécialité est la réanimation. Et ça, en réanimation, on pense bien que ça ne marche pas. On a d'ailleurs fait un petit papier qui a été publié dans un journal dont un membre de l'IHU est rédacteur en chef, qui a été lu par Didier Raoult, et Didier Raoult est complètement d'accord avec ça. Je dis ça pour les fans qui risquent de surréagir. En réanimation, c'est trop tard de toute façon, et ça n'a aucun intérêt. Et là, on a montré dans cette étude, on a pris un groupe qui avait des bonnes concentrations et un groupe qui était sous-dosé, parce que le métabolisme est un peu compliqué. Et finalement, quelle que soit la concentration d'hydroxychloroquine, le devenir du patient est le même, et les concentrations virales ne sont pas modifiées. Donc ça montre qu'en réanimation au moins, ça c'est certain, ce médicament n'a pas d'effet, même si les effets secondaires ne sont pas tels que décrits et un peu exagérés probablement de l'autre côté. Donc finalement, si on veut faire un petit bilan, on a Recovery, qui est l'étude probablement la plus fiable, il faudra la contrôler, mais qui est pour l'instant ce qu'on a de mieux. Le loperidol, ce n'est pas significatif. Le remdesivir, ce n'est pas significatif. Et l'hydroxychloroquine, ce n'est pas significatif. Donc on ne voit pas l'intérêt d'utiliser, ça c'est validé par l'OMS, on ne voit pas l'intérêt d'utiliser un antiviral aujourd'hui chez ces patients-là. Qu'est-ce qu'il en est des antibiotiques ? Pour les antibiotiques, avec le Haut Conseil de la Santé publique, on a statué que c'était une infection pulmonaire banale et qu'il fallait appliquer les principes qu'on applique d'habitude. C'est-à-dire on traite les patients qui ont un prélèvement positif avec une image évolutive, bien que l'image soit éminemment difficile à traiter, mais qu'on ne doit pas sortir de là, qu'il n'y a pas de traitement systématique, il n'y a aucun traitement systématique antibiotique pour ces patients-là. Et ça, c'est vraiment très important de le noter. Il y a, quand ils arrivent à l'hôpital et en réanimation, 5% de patients avec une pneumonie bactérienne qui est documentée. Et on ne peut pas traiter 100% des patients pour 5% d'infections bactériennes documentées. Ce serait un carnage écologique. Il y a aujourd'hui 4 800 patients en réanimation. Imaginez que ça ferait 4 800 traitements, probablement en large spectre, donnés au moins pour 8 jours parce que les gens ne peuvent pas désescalader dans ce contexte. Et de façon écologique, on créerait un cluster de BMR, de bactéries mutuelles résistantes, en France si on appliquait ces principes-là. Deuxième chose, l'inflammation. On nous a vendu, et ça c'était arrivé avec quand on a eu les premières données de la première vague, avant que ça arrive en France, qu'il y avait une tempête cytokinique. Alors on connaît ça dans le choc septique, ça a été décrit, et dans le choc septique, il faut bien savoir que dans notre expérience de réanimateur, Il n'y a aucun traitement anticytokinique qui n'a jamais été positif. Alors, il y a des essais avec l'interleukine 7, mais c'est une interleukine très particulière, ubiquitaire, mais il n'y a jamais eu de succès avec ces traitements-là. Et on a refait la médecine avec la Covid, hein, et donc on nous a dit qu'il faut donner des anticytokiniques et des anti-interleukines 6, voire des anti-interleukines du récepteur 1A, ou des anticorps monoclonaux, et, parce qu'il y a cette tempête. Et en fait, toutes les études, il y a eu des premières études encourageantes. D'ailleurs, le débat sur l'hydroxychloroquine a fait en sorte que les gens qui avaient des conflits d'intérêts sur ces médicaments qui sont chers, qui sont coûteux, qu'ils essaient de placer partout, sont passés dessous, sous le radar, en essayant de nous imposer ces traitements très, très précocement dans la prise en charge, alors que ces traitements, finalement, sur toutes les études récentes, qui maintenant sont bien conduites et randomisées, il n'y en a aucun qui a montré un effet, et Stanislas nous l'a bien dit tout à l'heure, il y a même des études plutôt à risque. Alors sur l'interleukine 6, il y a encore un petit débat, les études sont toutes très très divergentes l'une de l'autre. Sur l'interleukine contre le récepteur de l'interleukine 1, là vraiment, je crois qu'il y a des études, des signaux plutôt négatifs. Pareil pour le plasma convalescent, hein, où les études randomisées sont plutôt négatives, et là aussi il y a quand même une forte poussée pour utiliser ces méthodes-là, qui ne sont pas dénuées peut-être de conflits d'intérêts. En fait, quand on a regardé, on a fait ça sur Marseille avec nos collègues de l'hôpital européen, hein, on a regardé la réponse inflammatoire et une start-up qui est marseillaise, on a fait une analyse complète de la production de médiateurs par toutes les lignées impliquées dans la réponse immune. Et on a défini une réponse granulocytaire chez les patients Covid liée à la sévérité. Et au contraire, on a plutôt tendance à montrer une dépression de l'immunité, ce qui correspond bien à ce qu'on connaît dans le choc septique, plutôt qu'une tempête cytokinique. C'est très variable dans le temps, bien sûr, hein, mais quand les patients sont graves en réanimation, on a plutôt un défaut d'immunité plutôt qu'une réponse excessive, et donc on serait plutôt tenté de booster cette immunité plutôt que de donner des inhibiteurs. Donc ce n'est pas une tempête, c'est probablement peut-être une petite brise, tout au mieux. On n'est pas les seuls à avoir décrit ça, hein. Il y a plein de papiers, dont un papier anglais qui décrit ça très très bien aussi. Donc on est plutôt sur de l'immunodépression en phase tardive, peut-être une petite brise au début de la maladie, mais en tout cas, ça ne justifie pas de bloquer l'interleukine 6. Et finalement, ce qui marche le mieux quand on fait le tour de la littérature, c'est des corticoïdes. Alors, c'est vraiment des corticoïdes particuliers. C'est la dexaméthasone qui a été donnée. C'est dans l'étude Recovery, donc dans l'étude de Grande-Bretagne, 6 mg, c'est une toute petite dose, hein, c'est une petite dose, hein, par rapport à ce qu'on peut donner dans le SDRA, par exemple, dans le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Il y a des études en faveur de la dexaméthasone à 20 mg pendant les premiers jours, puis 10 mg. Là, c'est d'emblée à 6 mg. Et finalement, chez les patients les plus sévères, c'est un traitement qui semble bien marcher et qui semble avoir son efficacité. Alors, il y a eu beaucoup de foisonnement autour, hein. Moi, je pense que peut-être on a rendu ce traitement trop efficace. En tout cas, aujourd'hui, on le donne à nos patients. Je n'ai pas de vision. Beaucoup de médecins vous disent depuis que je donne ça, tout va mieux. Mais non, nous, on n'a pas cette vision optimiste. Mais en tout cas, c'est un des rares traitements qui, dans l'étude Recovery, et puis il y a beaucoup d'autres études maintenant qui sont sorties et qui sont positives, semble efficace dans cette situation. Donc, dexaméthasone, finalement, c'est l'un des rares traitements qu'on peut donner. Est-ce que c'est un effet de classe ou un effet de la dexaméthasone? C'est probablement un effet de classe, et probablement toute corticothérapie, mais donnée à faible dose, parce que chaque fois qu'on a essayé de donner forte dose, et on l'a fait chez nous, on a dû arrêter le traitement pour des surinfections bactériennes sévères, là. Donné à faible dose, ça semble plutôt marcher. Enfin, je finirai par la coagulopathie, hein, parce qu'il y a un lien très fort dans tout ce qui est infectieux entre l'inflammation et la coagulation, avec une activation très forte de la coagulation par le SARS-CoV-2 que vous pouvez avoir là via les récepteurs ACE. Hein, ça va faire un trigger sur l'endothélium et ça va créer du thrombus. Et c'est très intéressant hein, de voir que nos premiers patients qu'on a reçus, le premier décès qu'on a eu, c'est une embolie pulmonaire massive. Le premier patient qu'on arrive à extuber pendant la première vague et qui va bien, qui récupère complètement et réintubé le surlendemain, alors que c'était un gars de 37 ans, hein, réintubé le surlendemain sur une embolie pulmonaire massive qui a survécu, mais parce qu'on a pu lui faire une lyse in situ du caillou avec un appareil d'échographie d'ultrasons qu'on a et qui a été quand même pendant 15 jours, 3 semaines sous ECMO hein, après ça. Donc ce problème de la thrombose a été vraiment massif dans cette maladie, beaucoup plus que ce qu'on a l'habitude dans les autres cas. On en a décrit partout et il y a un nombre de publications très important. On a décrit plusieurs cas dans des séries européennes. Donc on a fait un protocole qui est basé sur des recommandations faites par le GFHT, qui est le groupe français d'hémostase et de thrombose. Donc si l'IMC est inférieur à 30, on met de l'enoxaparine à dose préventive, mais x2 en première intention. D'accord. Si le patient, s'il y a une contre-indication aux ABPM, on met de la calciparine et on vérifie l'activité anti-10 A. Et chaque fois que le patient a un critère d'obésité, un IMC supérieur à 30, on part avec une anticoagulation curative. Alors nous, on a choisi la tansaparine, mais ça peut être très variable, je n'ai aucun conflit d'intérêt avec ça. Par contre, je pense que vraiment que les HBPM sont mieux que les HNF et qu'il faut toujours privilégier quand on peut les HBPM qui font moins saigner. Et on a malheureusement aussi des problèmes de saignement une fois qu'on a lancé ces anticoagulations. Donc ça, c'est très important. Donc voilà, il y a des facteurs de risque, hein, et c'est plutôt chez les patients les plus graves, ceux qui ont de l'oxygène à haut débit et que ça survient, c'est plutôt chez les patients qui sont en surpoids. Hein. Et ce n'est pas des surpoids extraordinaires, hein, ce n'est pas des obèses morbides, c'est quand même des... voilà. Et puis il y a des facteurs de risque qui sont assez connus, les patients qui ont un cancer, les patients qui ont une insuffisance thrombose, les patients qui ont une insuffisance rénale, hein, c'est des patients qui sont bien connus et qui sont à fort risque de thrombose. Donc ça, c'est vraiment un point qui a été crucial dans la prise en charge le jour où on a réalisé qu'il fallait les anticoaguler de façon très, très, très efficace et très tôt dans la maladie parce qu'on a eu trop d'événements liés aux thromboses. Voilà, mon message, d'abord, c'est de vous dire que la réanimation... En aucun cas, contrairement à ce qu'on entend, et quand on est réanimateur, ça fait plaisir hein, qu'on compte sur nous et qu'on découvre enfin en France ce qu'est la réanimation, que la réanimation n'est pas un lieu où on fait que réveiller les patients qui ont une anesthésie. Ça fait très plaisir, mais on aimerait bien faire comprendre à tout le monde que la réanimation, c'est comme la ligne Maginot. Hein. Si on pense couvrir des lits de réanimation, ça va sauver le monde. Il y a un moment où ça ne va pas. Il faut juste prévenir en amont. Et pour prévenir en amont, ben, on a les masques, on a la désinfection des mains, on a la distanciation sociale, et puis on a les mesures que les politiques prennent, à laquelle on n'adhère pas, qu'on peut discuter, mais qui ont semblé sur la première vague efficaces, comme le confinement, même si on est tout à fait conscient du poids de cette décision. Pour les antiviraux, on a une certitude nulle, voire ou faible au mieux, de leur activité. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de données pour en utiliser en routine. Pour l'inflammation, il y a une certitude modérée. On utilise la dexaméthasone chez les patients qui reçoivent une oxygénothérapie. Je ne suis pas certain que ce soit un traitement qui soit immuable, mais pour l'instant, c'est le meilleur traitement qu'on ait. Et en termes de coagulation, la certitude est assez élevée, même s'il n'y a pas d'études randomisées. Et il faut plutôt donner des HBPM curatifs dès qu'il y a le moindre facteur de risque. Je vous remercie de votre attention.
Alors, je suis navré, je ne suis pas pédiatre. Je ne suis pas médecin généraliste non plus, donc j'ai un niveau de pédiatrie qui est proche de zéro. D'abord, la première chose qu'on peut dire, c'est que, comme vous le savez tous, la Covid est exceptionnellement sévère chez les enfants. On a tous entendu parler de ces fameux syndromes de Kawasaki-like, qui sont des phénomènes inflammatoires qui surviennent généralement après des infections. Et ça a été observé après des infections par Covid chez les enfants. Alors ça a été observé pendant la première vague, peut-être que dans les semaines qui viennent, il y aura à nouveau une augmentation du nombre de syndromes de Kawasaki-like chez les enfants, je ne sais pas. L'autre point un peu spécifique qui, je pense, mérite d'être rappelé, c'est que, à mon avis, contrairement à ce qu'on a beaucoup entendu ces derniers mois, les enfants sont probablement plus contagieux que ce qu'on croit. Alors je ne sais pas si c'est comme le nuage de Tchernobyl qui s'était arrêté à la frontière française, mais à un moment donné, on avait l'impression que cette histoire de la non-contagiosité ou de la très faible contagiosité des enfants était un petit peu une spécificité française, parce qu'il y avait un certain nombre d'études publiées aux États-Unis, en Israël notamment, qui montraient le contraire. Donc c'est vrai que ça pose des questions, ça pose beaucoup de questions, notamment concernant le maintien des écoles ouvertes. Après, c'est des choix qui sont de toute façon très compliqués, qui sont éminemment politiques, au sens noble du terme. Mais voilà, c'est un point essentiel qui me paraît nécessaire de rappeler à propos des enfants. Et pour le reste, je pense que j'ai rien de plus à dire. Marc, je ne sais pas.
Non, je crois que oui, il y a eu ces syndromes Kawasaki qui ont été décrits, hein, malheureusement, un dans la région qui a été fatal, hein, je crois. Mais autrement, c'est quand même une affection qui... C'est une affection de l'homme, d'abord, prioritairement. Il y a un peu plus d'hommes que de femmes. Et c'est une affection de l'âge mûr. Et c'est pas forcément le vieillard, contrairement à ce qui est écrit partout. Hein. Nos patients, je les répète, c'est des patients de réanimation, normalement, ont 66 ans. Nos patients Covid ont 62 ans. On a eu des patients de 24 ans, de 27 ans, de 30 ans. La majorité des patients a entre 55 et 70 ans, la grande majorité. Je crois qu'il y a vraiment très très peu d'enfants qui développent des formes graves en dehors des petits symptômes. Hein. Mais je n'ai aucune compétence chez les enfants. Hein.
Très bien. Nous avons un médecin qui nous demande si la VNI a été l'élément déterminant de la baisse de mortalité.
Je ne sais pas si c'est la VNI qui a été l'élément déterminant. D'abord, la VNI en pratique quotidienne, quand on l'a fait, on a quand même du mal, on a toujours eu du mal à démontrer que ça avait un effet sur la survie. Hein. On peut refaire toute la médecine à travers la Covid, mais on a toujours eu du mal à démontrer son efficacité en termes de survie, même s'il y a des études en post-opératoire qui démontrent un meilleur outcome. Je pense que les premières prises en charge étaient très agressives, donc ce n'est pas la VNI qui a amélioré la survie, c'est plutôt les premières prises en charge qui ont été peut-être un peu trop invasives et qui n'ont pas assez respecté ce qu'on fait d'habitude. Voilà. Après, la baisse de mortalité, elle a eu lieu pendant la première vague, c'est-à-dire entre les premiers patients qu'on a reçus et la fin, et l'étude dont tout le monde parle, qui sera publiée bientôt sur l'American Journal, cette étude, elle compare le début et la fin de la première vague. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas persuadé qu'on ait fait beaucoup de progrès par rapport à cette période-là et on retrouve une mortalité qui est proche de celle qu'on a en réanimation de façon standard. Mais c'est sûr qu'en étant moins agressif au point de vue ventilatoire, on a probablement un peu aidé les patients, mais c'est juste un retour à ce qu'on fait d'habitude.
Un petit mot de complément sur la baisse de la mortalité en réanimation, ou disons de la létalité en réanimation. Il y a d'autres facteurs confondants très très importants qui ont été notamment ce qu'on a vu à Paris. Hein, on a beaucoup parlé à un moment donné d'une soi-disant différence de qualité de prise en charge en réanimation entre les réanimations marseillaises et les réanimations parisiennes. Alors, j'ai énormément de respect pour les réanimateurs marseillais avec lesquels je travaille quotidiennement, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient plus compétents que les réanimateurs à Paris. En revanche, à Paris, du fait de la violence de la première vague épidémique, je pense que le recrutement des patients en réanimation a été très très différent de celui qu'on a eu ici. Ils ont vraiment vécu des conditions de guerre, hein, quasiment, avec à la Pitié-Salpêtrière, et je crois qu'il y avait 300 ou 350 lits de réanimation ouverts dans lesquels étaient transférés les patients les plus graves, tandis que les patients qu'on aurait pris et qu'on prenait en réanimation ailleurs restaient en service dans des conditions de sécurité qui étaient quand même très très limites, sous optiflow ou ventilation non invasive. Donc il y a clairement eu un biais de recrutement qui a certainement joué une part très très importante sur les différences de taux de létalité observés à différents moments et selon les régions et les départements.
Question suivante. Pendant combien de temps doit-on donner des HBM, merci, en ville chez les personnes à risque Covid positif?
Alors classiquement, par analogie à ce qu'on fait en service, nous on maintient les anticoagulants aussi longtemps que les patients ont besoin d'être hospitalisés. Les indications des HBPM chez les patients non hospitalisés, comme je l'ai dit, c'est en gros pour les patients qui sont alités, qui sont tellement fatigués qu'en réalité ils ne quittent pas le lit, et puis les patients qui ont des gros facteurs de risque de connus thromboemboliques. Donc on a parlé de l'obésité, mais il y a également les antécédents thromboemboliques évidemment, des cancers actifs, un traumatisme ou une chirurgie récente, un âge important, tout ça c'est des facteurs qui sont à prendre en compte pour décider de l'instauration d'une anticoagulation préventive. Et dans ces cas-là, je pense qu'il faut, il n'y a pas de recommandation extrêmement claire et surtout il n'y a pas de décès clinique qui a rendu des données permettant de répondre source à l'appui à cette question concernant les posologies et les durées. Mais je pense qu'il faut faire au moins la durée de la phase aiguë de la maladie, c'est-à-dire jusqu'à ce que les patients ne soient plus fébriles, quittent le lit et se remettent à avoir une activité à peu près normale. Pour les patients les plus sévères, il a été recommandé parfois même de continuer l'anticoagulation préventive pendant une quinzaine de jours après la fin de la phase aiguë. Mais ça, c'est plutôt pour des patients qui ont fait vraiment des infections assez brutales, assez bruyantes en hôpital, qu'on fait rentrer chez eux et parfois on poursuit les anticoagulants quelque temps. Mais c'est pour l'instant assez empirique. Alors, concernant la durée d'isolement, comme vous vous souvenez, au début, les recommandations, c'était 14 jours d'isolement. Et puis, la France s'est alignée sur les recommandations allemandes qui ont proposé de faire descendre à 7 jours la quarantaine, en quelque sorte, pour les patients Covid. Cette durée-là prenant comme point de départ la date de début des symptômes, ou bien pour les patients qui sont asymptomatiques mais qui sont Covid positifs en PCR, la date du prélèvement. Classiquement, donc, on fait 7 jours, drastique, en unité Covid, et puis on s'autorise dans des conditions particulières à désisoler les patients par la suite, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc en gros, je redis, moins de 7 jours, jamais. Enfin, moins de 8 jours, on ne lève jamais. Et chez les patients immunodéprimés ou qui font des formes sévères, c'est même 10 jours. On ne désisole jamais à moins de 10 jours. Au-delà de 24 jours, et ça c'est les recommandations de l'HAS, on désisole, sauf des cas très très particuliers, chez des grands immunodéprimés qui parfois gardent des charges virales très importantes longtemps. Et on sait que ces patients-là peuvent être effectivement contagieux de manière prolongée, mais parce que leur système immunitaire n'arrive pas à prendre le dessus. Et il y a cette fenêtre entre 10 et 24 jours où on peut désisoler à condition d'avoir obtenu des PCR négatives. Concernant le Covid dans les hôpitaux de santé mentale, donc est-ce que c'est les Covid asymptomatiques dépistés par exemple en hôpital psychiatrique? Alors là, je ne sais pas exactement, pour être honnête, comment les hôpitaux psychiatriques de la région sont organisés de ce point de vue-là. Est-ce qu'ils ont des unités dédiées
Ils ont des unités, ils ont quelques lits dédiés au Covid, comme n'importe quelle autre structure. Donc après, je ne sais pas si les patients sont ambulatoires dedans, comment ça se passe réellement, hein, mais ils ont des lits dédiés dans toutes les unités de santé mentale pour le Covid, enfin, au moins dans les institutions qu'on connaît.
Mais la santé mentale est un souci pour les patients Covid pris en charge en unité. Hein. L'isolement, l'enfermement dans les chambres est souvent extrêmement difficile à vivre. Et donc, typiquement, on a un psychiatre qui passe tous les jours, une psychologue qui passe tous les jours pour voir les patients qui le nécessitent. Parce que pour eux, c'est parfois vraiment très, très difficile.
Alors, il y a eu là un effet, on a publié ça avec Guillaume Font, qui est psychiatre à Marseille. On a publié deux papiers, un sur Marseille et un sur une base de données nationale chez les patients schizophrènes où il y a eu un effet de la maladie qui est quand même très marqué, notamment chez les schizophrènes âgés, avec une petite surmortalité par rapport au reste de la population.
Le suivi à distance montre-t-il une fréquence de séquelles respiratoires plus élevée que dans les autres SDRA infectieux?
Donc à la base, on sait que quand un patient a un syndrome de détresse respiratoire aiguë, et c'est des travaux canadiens qui l'ont montré, hein, vous faites des EFR, des explorations fonctionnelles respiratoires à 6 mois, à 1 an, il reste une amputation de la capacité respiratoire. Même chose, nous on l'avait fait à Marseille sur le traumatisme thoracique, hein, vous faites une exploration 6 mois, 1 an après, il reste une insuffisance respiratoire qui n'est pas forcément visible pour le patient s'il ne fait pas d'efforts, mais qui va être démasqué à l'effort. Et notamment des syndromes obstructifs qui sont assez marqués. Sur les premiers patients Covid qui ont été suivis, il semble qu'il y ait exactement la même chose. Alors on ne sait pas encore si c'est plus marqué ou moins marqué que par rapport à une population de référence qui aurait un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui reste. On a les cohortes en cours d'exploration et je pense qu'on ne doit pas être les seuls. Hein. Il doit y avoir beaucoup de centres qui font ça et je pense qu'il va rester. Et c'est extrêmement important de parler de ça parce que le débat est absolument focalisé et il est, je pense, à côté de la plaque. Le débat est focalisé sur la mortalité et on nous dit que c'est les patients les plus âgés qui meurent. Finalement, ce ne serait pas trop important. Mais si vous faites 3 semaines de réanimation à 50 ans, je crois que vraiment vous en souviendrez tout le restant de vos jours. C'est un événement qui est majeur. Et si vous gardez des séquelles respiratoires toute votre vie, toute votre vie va être amputée par ce problème-là, et donc il ne faut pas voir le Covid en étant « oh, c'est juste un problème pour quelques personnes âgées qui vont décéder ». Non, c'est un problème qui risque de poser un souci de santé publique majeur, avec des gens qui, d'abord, une grande partie de la population qui va passer du temps en réanimation, ce qui n'est jamais une expérience facile en soi, et quand on sort de la réanimation, il va y avoir un devenir assez difficile avec des séquelles respiratoires qui risquent d'être installées pour une longue durée. Donc vraiment, la seule vision sous le prisme mortalité est incorrecte. C'est mortalité, mais aller en réanimation, ce n'est jamais anodin. Et les suites de la réanimation et les suites respiratoires de cette maladie risquent d'être absolument ravageurs.
Je rebondis là-dessus. C'est une question effectivement capitale. Et les suites ne sont pas forcément faciles, y compris pour des patients qui ne sont pas allés en réanimation. Effectivement, à l'hôpital européen, on a nous aussi monté une cohorte et je participe au suivi de ces patients. Là, je les revois à 3 mois, 6 mois. Et il y en a un paquet qui, malgré le fait qu'ils n'ont pas eu de séjour en réanimation, continuent à traîner la savate pendant des mois derrière. Ils sont fatigués, ils sont un peu essoufflés quand ils montent les escaliers. Quand on leur fait les scanners, souvent, on ne retrouve pas grand-chose. On a quand même un patient qui a gardé une belle fibrose. Et quand on fait des EFR, chez ces patients hors passage en réanimation, ils ont souvent des EFR qui sont normales, mais par contre, ils ont souvent une diminution de la DLCO. Et ils décrivent une dyspnée d'effort qui les handicape dans leur vie quotidienne. Donc, effectivement, le Covid, ce n'est pas qu'une histoire de mortalité, c'est aussi derrière des patients qui développent des syndromes de fatigue chronique, qui gardent quelques séquelles respiratoires
et puis des troubles psychologiques aussi. Il y en a un certain nombre qui sont traumatisés par ce qu'ils ont vécu, qui développent des phobies, pour lesquelles la vie n'est plus du tout pareille, et même quand on a 25 ans. Quoi.
Y a-t-il également un risque de thrombose sur le versant artériel ?
Oui. Il y a une augmentation de l'incidence des AVC, des infarctus, et la maladie elle-même, dans sa physiopathologie, c'est une thrombose des artérioles pulmonaires. Donc c'est au départ, l'essence même de la maladie, c'est probablement autour de ça que ça se passe. C'est une thrombose artérielle au niveau pulmonaire qui est assez sévère. Donc oui, il y a une thrombose artérielle qui est assez marquée, même si elle est au second plan par rapport aux thromboses veineuses en termes d'incidence.
Pourrait-on revenir sur l'indication de l'anticoagulation à domicile, dose préventive, curative, pour quel profil de patient ? Merci.
Donc, comme je le disais, il n'y a que des recommandations à faible niveau de preuve. Mais à l'heure actuelle, ce qui est recommandé à domicile, c'est de prescrire des anticoagulations à dose préventive chez des patients qui sont alités pendant la phase aiguë de leur Covid, et a fortiori s'ils cumulent les facteurs de risque thromboemboliques, que sont les antécédents thromboemboliques, que sont les cancers évolutifs, que sont l'obésité. Voilà, c'est essentiellement ça, et puis des âges extrêmes. La posologie, c'est donc l'énoxaparine, là non plus, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec celle-là, mais c'est vrai que c'est celui qu'on prescrit le plus, donc le Lovenox, 0,4 ml une fois par jour, ça c'est le minimum syndical. Pour des patients qui cumuleraient un alitement, un cancer, il faut facilement monter à 0,6 une fois par jour, voire 0,4 deux fois par jour. Et pour des patients qui cumuleraient ça avec en plus une obésité morbide, il ne faut même pas hésiter à monter à 0,6 deux fois par jour. Et la durée, donc, c'est classiquement pendant la phase aiguë de la maladie. Peut-être qu'on nous recommandera bientôt de prolonger encore quelques semaines au-delà.
La notion de Covid long dont on entend parler repose-t-elle sur une définition syndromique ou sur des études observationnelles avec une définition imprécise ?
Alors, on va dire que c'est une définition syndromique, mais qui ne signifie pas qu'on a affaire à une infection chronique. La nuance est extrêmement importante et elle rejoint d'ailleurs tout le débat qu'il y a eu sur la maladie de Lyme chronique les années précédentes. En réalité, la maladie de Lyme chronique, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'infection active, il n'y a pas de multiplication de la bactérie de Borrelia burgdorferi de manière prolongée. En revanche, les patients qui ont eu une maladie de Lyme peuvent développer derrière ce qu'on appelle des syndromes post-Lyme, qui sont des syndromes d'encéphalopathie, myalgie, fatigue chronique, ou qui ressemblent en tout cas à ça, et qui peuvent derrière durer des mois, voire des années. Probablement qu'on a affaire à peu près à la même chose avec la Covid-19. On n'a pas encore tous les éléments puisque c'est trop tôt. Mais comme je le disais tout à l'heure, on commence à voir des patients qui, 6 mois après leur Covid-19 fait au printemps, finalement remplissent tous les critères du syndrome d'encéphalopathie myalgique fatigue chronique. Donc une asthénie qui est fluctuante selon les jours, une intolérance à l'effort qui est également inconstante, des douleurs mal systématisées, des céphalées mal précisées et qui étaient inexistantes auparavant, des troubles du sommeil, parfois des troubles de la concentration, des troubles nésiques, des troubles de la déglutition, des sensations de boules dans la gorge, et puis parfois des ganglions un peu palpables ici et là. Ça, ce sont les critères classiques du syndrome de fatigue chronique et on en voit apparaître à distance des Covid-19. Alors c'est ça la plupart du temps qu'on appelle Covid long et effectivement toutes ces études de cohorte là, qui ont été débutées dans différents centres visent à caractériser tout ça mais en aucun cas on ne parle d'infection chronique. Les infections chroniques, il y a d'ailleurs un papier qui vient de sortir, c'est quelque chose, ou en tout cas subaigu, disons, c'est quelque chose de rarissime qui ne se voit que chez des grands immunodéprimés. Nous, on a eu un patient tout récemment là, qui a un lymphome très très évolué et qui n'arrive pas à se débarrasser de son virus. C'est d'ailleurs pour, dans ce cadre-là qu'on avait tenté après ATU un traitement par plasmathérapie qui n'a pas fonctionné malgré le fait que ça lui ait effectivement positivé sa sérologie.
Est-ce que vous avez des chiffres qui concernent le taux de mortalité en réa et le taux de passage à l'intubation?
Le taux de mortalité en réa, il est... je pense qu'à la fin, il sera aux alentours de 27-28% sur les premières vagues. Ça va dépendre de ces patients. C'est des taux qui sont extrêmement matière à débat, hein, parce que si vous fermez vos réanimations à une certaine population en faisant un tri en amont, vous allez baisser votre taux de mortalité. Si vous prenez tout le monde, vous allez augmenter votre taux de mortalité. Hein. Et dans les réas françaises, on a tendance à prendre un peu tout le monde. Donc on peut augmenter comme ça artificiellement le taux de mortalité. Il était sur les patients intubés les plus graves, ceux qui sont restés de façon significative hein, dans les réas, aux alentours de 30-35% sur la première vague. Et puis en fait, quand on regarde l'ensemble des patients à Marseille, c'était entre 16 et 20%. Globalement, et on rejoint la mortalité qu'il y a sur les autres infections en réanimation. Vous avez peut-être une deuxième partie de la question. Le taux d'intubation, les patients qui arrivent en réanimation, aujourd'hui, il y en a à peu près 50% qui vont être intubés. Donc 1 sur 2, ce qui représente au niveau de tout l'hôpital, finalement, un taux assez faible, hein, si on repart de tous les patients qui ont la Covid et qui sont hospitalisés.
Est-ce qu'il y a eu une apparition de séquelles a posteriori chez des patients qui initialement ont fait une forme post-symptomatique?
Alors, des séquelles à type de fatigue chronique, oui. Alors, soyons clairs, post-symptomatique, il faudrait définir ça. Si on entend par post-symptomatique quelqu'un qui simplement a un petit peu de fièvre, éventuellement quelques courbatures pendant quelques jours et puis c'est tout. Moi, pour l'instant, je n'ai vu aucun patient qui décrive des séquelles. Au niveau des publications, pour l'instant, je n'ai rien lu de tel. En revanche, il y a une séquelle qui est assez classique, y compris chez des formes post-symptomatiques, c'est l'anosmie et l'agueusie. Il y a plein de patients jeunes qui, finalement, font des formes très peu sévères, un petit peu de fièvre, un peu de courbature, ils perdent le goût, perdent l'odorat. Tout ça récupère en quelques jours, sauf l'anosmie et l'agueusie qui, parfois, peut durer très longtemps, voire même être définitive. Hein. Je connais des cas cliniques, y compris dans mon entourage proche, de personnes qui n'ont pas récupéré du tout l'odorat. Ça bouleverse la vie, quand même, de perdre l'odorat comme ça, du jour au lendemain. Un élément important à signaler à ce propos, l'anosmie peut se rééduquer à condition que ce soit pris en charge précocement. Donc ce que nous disent les ORL, c'est que si au bout d'un mois, les patients n'ont pas récupéré le goût et l'odorat, il faut rapidement les adresser à des ORL qui font passer des tests et ils ont des techniques de rééducation de tout ça. Après, est-ce que ça marche? On le verra. Il y aura certainement des études là-dessus, mais voilà.
Je voudrais remercier nos deux confrères d'abord d'être venus et d'avoir suscité un nombre important de questions. C'est à mon avis un critère assez simple de réussite de la soirée. Merci pour tout. Merci au nom de tous les médecins des Bouches-du-Rhône. Merci, monsieur Delecourt. Bonsoir.